Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, on va parler d'un nouveau genre musical qui peut sembler à mille lieues du classique, le rap.
Fatigué d'expliquer. Utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si plus personne comprend, je m'exile à pétard ou je me. Alors laisse-moi triper l'esprit.
Cette harangue énervée, c'est Stupéflip Vite du groupe Stupéflip, un morceau que j'écoute depuis des années et j'ai récemment découvert qu'il venait de l'opéra. Écoutez plutôt cet extrait de Der Freischütz, une œuvre du romantique allemand Karl Maria von Weber. Quelques secondes mises en boucle qui servent de base à tout un morceau. Ce passage, il est possible grâce à la magie du sample, un échantillon en français. Le sample, c'est un petit bout de son, une mélodie, une rythmique utilisée et adaptée par un autre musicien qui se le réapproprie. Je me suis amusé à recréer ce passage de Karl Maria von Weber à Stupéflip. Le sample, c'est une technique indissociable du hip-hop, mais qui s'est développée aujourd'hui plus largement dans tous les domaines musicaux. Ça peut être issu de n'importe quoi, de chansons, de répliques de films, de publicités et donc de musique classique. Le sample a un cousin qui s'appelle le replay. Ça consiste à rejouer une partie d'un morceau pour en isoler un élément intéressant, alors que le sample, c'est vraiment prendre un enregistrement. Cette pratique, elle est née à New York dans les années 70, quand des disques jockeys passaient en boucle certains passages de chansons pour faire danser dans les fêtes de rue, les block parties. Aujourd'hui, c'est très simple de faire ça à l'ordinateur, mais avant le développement de l'informatique, ça se faisait avec des sampleurs, des machines qui permettent de découper ces échantillons et de faire ces fameuses boucles. Leurs capacités se sont progressivement améliorées et donc avec elles, la durée de ces échantillons, ce qui a donné plus de possibilités aux producteurs de hip-hop. Pour retracer l'histoire de cette pratique à travers différents exemples et comment on transforme le classique en hip-hop, j'ai invité Brice Miclet. Il est journaliste musical et auteur de « Samples aux origines du son hip-hop », un livre paru aux éditions Le Mot et le Reste.
Le sample, il est né d'abord dans les cerveaux des ingénieurs qui confectionnaient les instruments électroniques, mais ça, c'est un peu pour l'histoire lointaine, mais ensuite, pour tout ce qui est hip-hop, c'est né en même temps que le hip-hop, en fait, parce que le sampling, la démarche de s'approprier la musique des autres, fait vraiment partie de l'ADN du rap, parce que c'est une musique de DJ à la base. Et donc, les premières block parties new-yorkaises de DJ Kooler, de Grandmaster Flash, etc., étaient déjà des DJ sets dans lesquels ils transformaient la musique des autres pour les danseurs, et plus tard les rappeurs. Donc le sampling, même s'il se pratiquait pas avec des sampleurs au début du hip-hop, se pratiquait d'autres manières en modifiant la musique déjà et en la mettant en boucle.
En la modifiant et puis en la rejouant, c'est ce qu'on appelle le replay, c'est ça ?
Ça, c'est un petit peu plus tard. C'est quand le hip-hop a été mis sur disque par Sylvia Robinson, qui avait le label Sugary Records, qui a fondé le groupe Sugary Gang, qui était une sorte de boys band en fait, d'animateurs radio-rappeurs. C'était des types qui sortaient un peu de nulle part. Et effectivement, ils ont pris un bout du morceau Good Time de Chicks, qui était sorti quelques mois auparavant. Ils l'ont mis en boucle, mais au lieu de mettre vraiment l'empreinte sonore de l'original en boucle, ils l'ont fait rejouer en studio par des musiciens qui s'appellent les Positive Force. Les débuts radiophoniques du hip-hop se font avec la boucle, l'esprit de sampler, mais sans vraiment le sample à proprement dit, qui est vraiment l'extraction de l'empreinte sonore et son détournement et sa transformation.
Voilà à quoi ça ressemble. D'abord Good Times, puis Rapper's Delight, le premier morceau de rap enregistré et le premier tube du rap. Il a été vendu à des millions d'exemplaires.
Stop the rocket to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to sing hello.
J'ai ensuite demandé à Brice de me raconter l'histoire d'un autre extrait très connu du début de l'histoire du rap. C'est un court passage de Funky Drummer, un morceau de James Brown. D'après le site de référence whosampled.com, il a été utilisé au moins 1600 fois. Allez jeter une oreille sur ce site, il recense tous les samples possibles et imaginables, c'est vraiment fascinant.
James Brown, c'est un artiste qui avait la particularité de mettre des breakbeats dans ses titres, c'est-à-dire que dans ses morceaux, il faisait souvent une respiration, un pont en fait, rythmique. Lui pouvait chanter, faire des onomatopées, etc. Mais la batterie ou les percussions prédominaient et c'était pour les danseurs, etc. Et donc le son de la batterie de James Brown et le groove de ses batteurs, notamment Clyde Stubblefield, plaisait énormément aux premiers DJ de hip-hop qui le passaient dans leurs soirées, donc aux rappeurs qui commençaient à rapper sur ces morceaux-là et donc aux compositeurs de rap plus tard qui se sont appropriés et ont samplé ces batteries pour qu'elles deviennent une des bases de la rythmique hip-hop. La rythmique hip-hop s'est grandement construite sur les breakbeats. Alors, il y a James Brown, mais il y en a plein d'autres. Funky Drummer, c'est effectivement la batterie de James Brown qui a été la plus récupérée par le hip-hop.
Voilà, Funky Drummer, puis deux exemples de réutilisation qui sont très éloignés l'un de l'autre. D'abord, Rebel Without a Pause de Public Enemy, morceau de 1988, extrêmement important dans l'histoire du hip-hop. Et puis Short Sleeves en 2014, chanson pop d'Ed Sheeran, un sample, deux ambiances. One, two, three, four, get it. Dans les années 80, cette pratique du sample, elle se développe grâce à la technique, mais à la fin des années 80, tu écris qu'il y a un coup d'arrêt parce qu'en fait, les maisons de disques estiment que c'est du pillage en fait de leurs titres et que elles pourraient toucher des droits d'auteur là-dessus et qu'il y a une bonne façon de gagner de l'argent. Un bon exemple de ça, c'est Can I Kick It de A Tribe Called Quest qui a dû verser 100% de ses droits d'auteur à Lou Reed pour la ligne de basse de Walk on the Wild Side.
Ils n'avaient pas demandé l'autorisation de Lou Reed à la base, et quand la maison de disques de Lou Reed s'est aperçue, a entendu Can I Kick It de A Tribe Called Quest, qui a été un gros tube hip-hop en 91, ils ont tiqué quoi. Même s'il y avait globalement une forme d'impunité, il y avait déjà eu des procès, De La Soul, qui est un groupe de hip-hop, donc qui avait eu un procès, Afrika Bambaataa, qui était un des premiers DJ de hip-hop et qui est ensuite un des premiers compositeurs, a été attaqué par Kraftwerk, le groupe de musique électronique allemand. Et à cette époque, l'impunité se termine globalement. En fait, surtout la législation via du sample se met en place. Ça prend un petit peu de temps, mais il y a un procès en 1992 qui est un peu emblématique et qui là change vraiment la donne définitivement.
Aujourd'hui, dans cette histoire du sample, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça se fait toujours ?
Bien sûr, ça se fait toujours. Alors, ça se fait moins. Auparavant, le son du hip-hop changeait en fonction des évolutions technologiques liées au sample. Notamment, les sampleurs, les appareils qui ont été développés exprès pour sampler, avaient un temps d'échantillonnage qui augmentait dans les années 80. Au fil des ans, on arrivait à faire un temps d'échantillonnage plus long. Donc, le son hip-hop changeait au travers du sample. Aujourd'hui, c'est plus le cas, en fait. Il y a toujours du sample. Il y a des artistes comme Kendrick Lamar, comme A$AP Rocky, comme Travis Scott. Il y en a plein qui sont des artistes majeurs aujourd'hui, qui utilisent énormément le sample. Mais le son hip-hop ne se définit plus par le sample. L'âge d'or du sample est un peu passé, mais la pratique est toujours présente. C'est une des manières de faire du hip-hop aujourd'hui. Il y en a plusieurs.
Pourquoi est-ce que on sample ?
Eh ben, on sample d'abord parce qu'on aime la musique qu'on entend. C'est la première chose. C'est une question de groove. Les beatmakers, alors les gens qui font les instrumentales de hip-hop, sont des fous de musique, en fait, qui fouillent partout, qui, dès qu'ils entendent quelque chose, c'est des gens extrêmement curieux, donc ils vont piocher dans absolument toutes sortes de musiques. Il n'y a pas de limite. Le hip-hop peut tout sampler.
Le hip-hop peut tout sampler, et donc aussi le classique. Écoutez Paparazzi du rappeur américain Exhibit.
Yes, 1996 marks the beginning of a new era. The dysfunctional member of the alcoholic family is Exhibit. Sometimes I wonder if it's all worth my while. Exhibits stay versatile with million-dollar lifestyle. And I can feel it as a child growing up. The brothers that was real and the brothers that was scared to f***. It's why Exhibit only roll with a chosen few. You ain't really real, I can tell when I look at you. Ease off the trigger talk, you ain't killing it, it's not affecting me. Or the click that I'm rolling with, I don't believe the hype about wolf tickets. You make a gang of noise, it never seemed like a cricket. I guess it's why we never kick it. A lot of rappers...
Morceau inspiré de la Pavane de Gabriel Fauré, sur laquelle la chanteuse Barbara Streisand a posé quelques vocalises. Cette Pavane est l'une des œuvres pour orchestre les plus connues du compositeur français. Elle a été beaucoup réutilisée dans la pop culture. Voici la version originale composée en 1887. Deuxième exemple en France, NTM, That's My People, sur l'album Supreme NTM.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou, mais c'est comme ça, je me nourris de ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça, j'aime quand ça fait pas.
Morceau tiré du quatrième prélude de Frédéric Chopin. J'ai demandé à Brice comment on était passé du compositeur romantique au rappeur de Seine-Saint-Denis.
Par un homme qui s'appelle Sully Céphile, qui est un beatmaker, donc un producteur de hip-hop, qui est plus connu pour avoir fait un tube au début des années 2000, qui s'appelle Je voulais, pour avoir fondé une marque de streetwear très très connue. Mais à l'époque, il travaillait avec un rappeur qui s'appelle Bustaflex, qui est un rappeur un peu classique, un peu légendaire du rap français dans les années 90. C'est son grand pote, et Bustaflex, c'était le poulain de Kool Shen, donc un des deux rappeurs d'NTM, l'autre rappeur, c'est Joystar. Quand Kool Shen bossait sur l'album de Bustaflex, son poulain, il cherchait des instrumentales. Et donc le pote de Bustaflex, Sully Céphile, lui fait écouter ce qu'il est en train de faire dans son studio. Il a pris du Chopin, il a juste pris le piano, il a mis une batterie dessus, terminé. Et Kool Shen fait « Non, attends, ça je le veux pas pour Bustaflex, je le veux pour moi ». Et il a juste pris le DAT, le morceau n'était même pas fini. D'ailleurs, si on écoute bien, il y a une caisse claire qui est moins forte que l'autre, une sur deux.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le DAT pour ce
qui... C'est un prémix en gros, quoi. Il n'y a pas de master, etc. C'est quelque chose d'assez rudimentaire sur lequel on récupère, ça peut être sur une disquette notamment. J'ai rencontré Sully Céphile pour mon livre, justement pour parler de ce morceau. Il ne se souvient pas comment il a trouvé Chopin, en fait. Ça arrive très souvent dans le sample, il ne sait pas où il l'a trouvé. Il fait « Ouais, je sais pas, j'ai entendu ça, je l'avais sous la main. Ouais, je l'ai pris, je l'ai rentré dans mon sampler, terminé. puis j'ai balancé le vinyle après, quoi.
Parce que c'est une question que j'avais posée dans mon épisode sur le métal. Est-ce que les amateurs, là en l'occurrence de rap, ont une culture classique ?
Je pense pas que ce soit globalement des connaisseurs de classique. Comme dans le métal, il y a des connexions très fortes. Dans le hip-hop, il n'y a pas cette connexion évidente. Ce qu'il y a, c'est que les beatmakers sont des gens extrêmement curieux. Et donc, ils vont chercher absolument partout. Et évidemment, le classique en fait partie, même si c'est peu samplé par rapport à beaucoup d'autres musiques, ça reste évidemment une source de samples très large.
Est-ce qu'il y a des spécificités au fait de sampler le classique ? Est-ce que c'est, par exemple, pour une recherche de légitimité ou
Pas spécialement, en fait. La légitimité chez les beatmakers, elle se fait en trouvant un son qui est très beau, excellent, mais qui n'a pas encore été samplé et qui est très peu connu. C'est de sortir le son de derrière les fagots. Alors forcément, le classique, c'est une musique très répandue, on connaît beaucoup de choses, très expertisée, etc. Donc aller chercher des choses vraiment historiquement peu connues, enfin au fin fond, ça se fait, mais c'est une autre démarche. C'est pas comme aller chercher dans les musiques noires américaines qui fait partie vraiment de la tradition hip-hop, qui a construit le son hip-hop. C'est pas tout à fait pareil. Et c'est pour ça qu'on retrouve quelques samples de classiques, ouais, effectivement, mais dans des proportions relativement faibles.
Autre exemple de ces samples de classiques, c'est un titre qui a mis lieu des clichés qu'on peut avoir sur le rap, c'est-à-dire le rap serait dans la violence, une histoire de rappeur avec des égos démesurés. Là,
il peut l'être, mais pas tout le temps.
Voilà, mais justement, là, c'est cet exemple. Un message positif destiné aux enfants. Vous pouvez réaliser vos rêves en travaillant dur, mais ne prenez pas de drogue. C'est Nas qui utilise la lettre à Alice de Beethoven sur I Can. Put your hand in the air and take the vow. I know I can. Be what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be. Est-ce que des titres comme ça, qui utilisent des morceaux ultra connus du classique, ça peut aider à la diffusion justement de ces morceaux classiques ? Est-ce que ça peut les faire découvrir à des amateurs de rap ?
Bien sûr. Je compte pas le nombre de gens qui m'ont dit ou le nombre d'artistes qui ont dit qu'ils avaient découvert telle musique, qu'ils s'étaient plongés dans tel artiste, etc. grâce au hip-hop, grâce au sample. C'est énorme, c'est vraiment... À partir du hip-hop, en fait, les gens peuvent élargir vraiment leur culture musicale s'ils décident de s'y intéresser, de plonger un petit peu dans les coulisses, un petit peu de la fabrication des morceaux.
Tout ça, ce sont des exemples assez anciens. Est-ce que aujourd'hui, ça rejoint la question sur est-ce que le sample se pratique toujours ? Est-ce que le sample de musique classique se pratique toujours dans le rap ?
Ouais, ça se pratique toujours, mais ça se pratique toujours dans des proportions plutôt faibles. Il y en a, il y a Busta Rhymes qui a récemment samplé du Mozart. Il y a Orelsan qui a samplé du Vivaldi il y a quelques années aussi, donc ça se fait toujours. De toute façon, il n'y a pas un moment où on ne peut plus sampler telle musique. Et les musiques qu'on samplait au début du hip-hop continuent d'être samplées, et de nouvelles arrivent tout le temps, et le classique sera... Tant qu'il y aura du sampling hip-hop, le classique sera samplé comme les autres musiques. Une semaine en cours, les yeux bloqués sur la pendule. Un samedi soir, 5h du mat, du whisky coca sans bulle. Un pause cap dans le bus, pour marquer ton territoire. La même histoire depuis 3 ans, avec la même meuf que tu kiffes sans plus. Un taf qui pue, la lassitude et la friture.
Tu parles de Mozart, de Vivaldi. Est-ce qu'il y a des formes classiques ou des instruments qui sont plus utilisables comme sample que d'autres ?
Bah, en général, les beatmakers hip-hop aiment bien les pianos solos. Et les orchestrations de cordes. Les cuivres, pas trop, enfin ça dépend, ou alors bon, c'est assez rare. Sampler les cuivres, c'est assez technique en fait. Au niveau du son, du mixage, il y a un homme qui s'appelle Pete Rock, qui est un producteur new-yorkais, qui le faisait très bien. Mais globalement, c'est plutôt du piano solo ou des choses comme ça. Mais le piano solo, il y en a plein dans le jazz aussi. Herbie Hancock, Bill Evans, Thelonious Monk, c'est des gens qui ont été extrêmement samplés. Donc le réflexe premier du beatmaker, c'est d'aller chercher du piano solo dans le jazz, mais ensuite dans le classique, hein, on l'a vu avec Chopin. Pour ce qui est des cordes, le premier réflexe, ça va plutôt d'être allé chercher dans la soul ou dans les musiques de films ou dans la musique d'illustration chez David Axelrod ou des gens comme ça. Et ensuite, effectivement, on trouve des choses dans le classique.
Tu dis que le classique est un sample comme les autres. Finalement, c'est pas donné ça, parce que la musique classique est parfois vue comme quelque chose d'intouchable, de sacré, etc. Justement, là, les beatmakers osent s'y attaquer. Voilà.
Ils s'en foutent complètement. C'est ça que je trouve absolument génial, c'est qu'il n'y a pas de... Ils samplent tout. Alors effectivement, il y a du respect pour l'artiste qui sample. sampler quelqu'un, c'est une manière de le respecter, en fait. Même si, alors, on peut dire c'est du vol, etc. Oui, ça peut être du vol dans certains cas, quand c'est fait de manière illégale. Mais c'est une forme de respect pour les beatmakers d'utiliser la musique, parce qu'ils utilisent la musique qu'ils aiment. Le son qu'ils aiment. Ils le font vraiment, souvent avec une oreille assez neutre. Pas forcément de grands connaisseurs de musique classique. Ils vont sampler un extrait de musique classique parce qu'il est beau et qu'ils veulent en faire quelque chose. Donc, je trouve ça très respectueux, au final, comme démarche.
Pour terminer cet entretien, est-ce que tu as un exemple de sample, pas forcément classique, que tu aimes bien et que tu veux nous faire découvrir?
Il y en a un que j'adore, c'est le producteur Ayatollah, qui s'est attaqué au morceau One Step Ahead d'Aretha Franklin, sorti en 1965, et qu'on a fait l'instrumental du titre Mrs. Fat Booty, du rappeur Mos Def, en 99, sur l'album Black on Both Sides. C'est un sample magnifique où la voix d'Aretha Franklin est modifiée, donc c'est-à-dire qu'on touche un peu à un mythe encore, mais comme je le disais, les beatmakers, on s'en fout un petit peu, donc ils peuvent toucher à la voix d'Aretha Franklin et il arrive à assembler plusieurs passages pour en faire un nouveau morceau, une nouvelle mélodie, et le morceau de hip-hop est superbe.
Merci Brice, on va se quitter avec cet extrait. And she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name Big Fame. She like catching big things, jewel ship, money clip, phone flip. Pour résumer cet épisode, le sample est une technique indissociable du hip-hop et le classique peut servir de base aux rimes des rappeurs. C'est assez peu répandu, mais le statut de musique savante ne rebute pas les beatmakers et cela permet de réentendre des morceaux connus de la musique classique d'une nouvelle façon et parfois de faire des découvertes. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Pour en savoir plus, je vous renvoie au livre de Brice Miclay, Sample avec un point d'exclamation aux origines du son hip-hop. C'est paru aux éditions Le Mot et le Reste et c'est une véritable mine d'or dans laquelle on apprend plein de choses sur l'histoire du rap. Rendez-vous sur radioclassique.fr, vous retrouverez sur l'article dédié à cet épisode les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité. Vous pouvez me contacter sur Twitter et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt.